Merci Stéphane et bonjour à chacune et à chacun. Et la joie d'être parmi vous ce matin pour vivre ce temps de baptême d'eau par immersion. Faut-il le préciser, puisque dans la Bible il n'y a pas d'autre baptême que de baptême d'eau par immersion, c'est-à-dire plonger dedans, n'est-ce pas? Immerger veut dire plonger dedans. Donc tout autre baptême finalement peut être une conséquence d'une tradition ou de... Alors peut-être d'un manque d'eau. Je veux bien croire que dans cette région du monde, l'eau soit tellement précieuse qu'on en fait juste un baptême avec quelques gouttes. Mais chez nous, l'eau est abondante, n'est-ce pas? Et donc, ne nous privons pas, même si ce matin, il paraît qu'elle est fraîche. Ça réveille. C'est bien. C'est bien. Baptême d'eau par immersion. Et puis... Le baptême fait partie des deux choses que Jésus lui-même a instituées. La première étant la Sainte Cène, ou le repas du Seigneur, que nous prendrons aussi tout à l'heure, il l'a lui-même institué, et puis il a aussi institué le baptême d'eau. Alors si vous voulez appeler ça sacrement, c'est comme vous voulez. Mais il n'y en a que deux, des sacrements. Hein. Dieu a institué d'autres choses, mais dans la Nouvelle Alliance, il y a ces deux choses-là qui sont deux piliers, baptême et Sainte-Cène, et les deux choses sont liées. Si vous ne savez pas ce qu'est la Sainte-Cène, ben on va la prendre tout à l'heure et je vais aussi la présider et on expliquera quelques points par rapport à cela. Alors merci Stéphane pour tes encouragements et ton invitation. C'est vrai qu'on vit des choses chouettes avec cette école qui a recommencé, école de formation dans le cadre de l'Église libre, et je vous y invite. C'est vrai que le Seigneur nous a surpris hier, enfin moi il m'a surpris. On devait finir à midi, mais Dieu n'a pas la même montre que nous. On a fini à 1h30, je ne sais plus. Il y avait des souhaits de prière et Dieu a honoré cela, Dieu dans sa grâce. Et il est bon. Et ce matin, il est parmi nous. Il veut rencontrer chacun, pas seulement nos amis qui vont se faire baptiser, mais il veut rencontrer chacun. Est-ce que tu es prêt à vivre cette rencontre avec le Seigneur? Personnel et ensemble. Parce qu'il est là. Il est venu voir Marie, il est venu voir Marthe et il les aimait beaucoup et il les a rencontrés. J'imagine la joie d'une Marie et d'une Marthe qui accueillent Jésus. Quand on aime quelqu'un, waouh, c'est super, t'es là. Il les a rencontrés, elles étaient toutes sourires. Et ce matin, le Seigneur veut te rencontrer personnellement. Alors tu peux fermer ton cœur ou l'ouvrir. Tu peux dire c'est un dimanche matin de plus qu'un autre. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre? Ou alors non, c'est une rencontre avec toi. Seigneur, je le veux, je te saisis de tout mon cœur. Et cette rencontre avec Marthe et Marie, par exemple, ça change leur vie. Et ce matin, le Seigneur veut te rencontrer, et il y a quelque chose qui va changer, si tu le souhaites, si tu l'acceptes. Et c'est vrai que ce lieu, il a été témoin de choses tellement extraordinaires. On ne se lasse pas de découvrir ce que Dieu a fait dans le passé, et on écrit en même temps l'histoire, parce que Jésus est là, et il est présent. Des générations nous ont précédés. Alors, où est-ce qu'on va ce matin? Dans le baptême. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez dans le monde entier. Jésus parle à ses apôtres, ses envoyés. Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Donc plus seulement aux Juifs, mais à tous, toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Promesse de salut. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il restera enfermé dans son condamnation. Et voici les signes de ceux-là qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Parler de nouvelles langues. Attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alors c'est la seconde 21, je ne sais pas si tu affiches la même chose ou pas. Oui, génial, merci. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. La souveraineté de Jésus est affirmée. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Confirmation de la parole des envoyés. Vous avez remarqué peut-être que le verset 15 commence par « puis ». Puis, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose de dramatique pour Jésus, dramatique pour les disciples, dramatique pour ceux qui avaient commencé à suivre Jésus, quelque chose de dramatique pour le monde invisible et spirituel, dramatique pour Satan et ses sbires et tous les esprits mauvais. Jésus en parle dans ce texte-là. Et dramatique pour la terre tout entière, mais glorieux. Aussi fort qu'une naissance, un bébé qui vient au monde. Avant, c'est dramatique pour ces dames qui vont accoucher. Et puis pour les papas, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. La panique totale. Voilà, après, avec le deuxième, le troisième, on s'habitue. Mais il y a quand même des signes douloureux qui sont là pour l'épouse, les contractions qui commencent. Mais ça annonce quelque chose de glorieux. Et la terre, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, a accouché de la gloire, du ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus qui se passent dans ce monde terrestre, dans cette Palestine, il y a 2000 ans, juste avant que Jésus meure, les disciples prennent la scène ensemble, dans l'intimité. Il y a les 12, Judas y compris. Jésus est là et il instaure la Sainte Cène. Il fait un geste prophétique dans le repas de la Pâque juive et il inaugure quelque chose d'extraordinaire. Il met en route une tradition, entre guillemets, cette tradition qui perdure encore aujourd'hui. Et si on la prend avec foi, qui est un repas de vie. Il inaugure, il met en route un repas pour la chrétienté tout entière. Le repas du Seigneur, c'est pour les croyants. C'est pour les croyants. Dans la Bible, c'est très clair. Si vous n'êtes pas croyant, ne prenez pas le repas. Si vous l'êtes, prenez-le. Prenez-le, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Dans ce repas, le soir de la Pâque, Judas, le fils de perdition, ami de Jésus, comme les autres, quitte la pièce. Il doit faire ce qu'il doit faire. Inspiré par les démons, mais il a ouvert la porte. Et puis après ce repas, les onze, plus Jésus, donc les 12, se déplacent au jardin qui devient un jardin de douleur, Gethsémané. Douleur qui commence d'abord par la prière. Jésus a besoin de prier et de trouver son Père. Il dit « L'heure est venue ». Plusieurs fois dans l'Évangile, c'est marqué « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais là, l'heure est venue. L'heure est venue d'une rencontre avec le Père et d'une séparation avec Dieu le Père. Un déchirement hallucinant. Je ne sais pas quel qualificatif on peut mettre. Un déchirement. Jésus va avec les 11 dans ce jardin, si vous avez visité ces lieux qui existent toujours. Et puis, il laisse 11 moins 3, ça fait combien ? 8 ? N'est-ce pas ? Il laisse les 8 assis et il en prend 3 avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et il demande de prier. Et il s'éloigne un petit peu, il se jette à terre. Et il y a une agonie spirituelle, physique, émotionnelle de Jésus, intense. Et dans ce jardin, il décide d'aller jusqu'au bout et d'aller à la croix. Et de mourir pour toi et pour moi. Est-ce que tu te rappelles ce matin que Jésus est mort pour toi, pour moi, personnellement, sur la croix, le pire des sacrifices ou des supplices. La croix était une agonie, mais l'agonie de la croix commence déjà dans ce jardin. Et il décide de mourir pour toi et pour moi, tout exprès, volontairement. Les péchés que tu as fait jusqu'à ce jour, il les portera sur la croix. Tous les péchés, même ceux qu'on ne connaît pas, parce que parfois on est aveuglé. Et le Seigneur Jésus ce matin te rappelle qu'il est mort pour toi, qu'il est mort pour ta vie. Et en retour, qu'est-ce qu'il attend ? Que tu puisses accueillir cette bonne nouvelle, qu'il est mort pour toi, afin que tu n'aies plus à mourir à cause du péché, plus à passer par la mort. Alors, il se fait arrêter, Jésus, menottes au poignet. Il n'a rien fait, mais on lui met les menottes au poignet, n'est-ce pas ? Et il est conduit dans la maison du souverain sacrificateur, Caïphe. Il ouvre sa maison, la cour plus exactement. Et puis là commence un drôle de procès. Entre-temps, il réunit Caïphe, les autres prêtres, les autres sacrificateurs, les principaux, nous disent les textes. Et puis vient, comme dans tout procès, les témoins, les pseudo-témoins, parce qu'ils donnent des pseudo-témoignages. J'ai entendu, j'ai vu. Mais le souverain sacrificateur, qui fait office de juge, ne comprend rien, parce qu'il n'y a rien qui concorde. Alors, il arrête cette mascarade. Est-ce qu'ils ont été payés, les faux témoins ? On n'en sait rien. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, les faux témoins. Mais ils arrêtent tout ça. Ils regardent Jésus, qui n'a rien dit jusqu'à présent. Il n'a fait aucune défense personnelle. Il aurait pu. Mais il est l'agneau qu'on mène à la boucherie, rappelez-vous. Et puis, il pose une question. « Es-tu le Messie, fils du Dieu béni ?» Verset 62 de l'évangile de Marc. « Je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées. » Jésus affirme sa messianité. Et lorsqu'on dit « je crois », on l'a chanté tout à l'heure, on affirme que Jésus-Christ est sauveur, mais aussi le Messie. Peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais celui qui était destiné par Dieu, envoyé sur cette terre pour sauver notre Messie, c'est notre Messie aussi, même s'il était venu d'abord pour les Juifs. Cette phrase de Jésus, oui, où il affirme sa messianité, elle déclenche son arrêt de mort, ou son arrêt de vie. Elle déclenche son arrêt de mort. Il déchire ses vêtements, signe d'humiliation, ce grand prêtre. C'est pas rien, grand prêtre. C'est le sommet de la hiérarchie. Il déchire ses vêtements. Le procès s'arrête là. Il est. Après, on va le mener, comme vous le savez. On va mener Jésus. Comme les autres condamnés, on le mène à l'endroit où on va crucifier les condamnés. Quel procès terrible. S'il y avait eu des journalistes, de la Tribune, de la Julie ou autres, qu'est-ce qu'ils auraient écrit ? Alors, ça a été écrit, on a les évangiles. Mais j'espère que ça aurait fait scandale. Mais à l'époque, ça n'a pas fait du tout scandale. Ce procès, ce mauvais procès. Les choses qui ont été faites, qui ont été vécues à ce moment-là, on pourrait dire, oui, c'était la volonté de Dieu. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que le péché n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais Dieu a livré son Fils, a donné son Fils comme victime expiatoire. Pierre renie Jésus. Et tous les autres avec lui. Il n'y a pas que Pierre qui a renié Jésus. Et puis, je passe, Christ est crucifié, 9h du matin, l'agonie est longue, dans le milieu de l'après-midi, Jésus meurt sur la croix. Voilà la chronologie des événements. Au moment où il meurt, Matthieu nous raconte qu'il y a des événements extraordinaires qui sont là. Un tremblement de terre, une éclipse totale, qui est là, et puis des résurrections. À ce moment-là, le ciel et la terre, accouchement spirituel, le ciel et la terre vibrent, tremblent de tout ce qui se passe, et puis ce général romain qui dit « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Certainement, cet homme est le Fils de Dieu. À quoi il a vu ça ? Ce n'était pas une crucifixion habituelle, parce qu'ils avaient l'habitude, les Romains, n'est-ce pas, de crucifier. Les chefs romains étaient cruels, animés par une cruauté, une insensibilité. C'était les nazis de l'époque, n'est-ce pas ? Parce qu'on parle beaucoup des nazis en ce moment. C'était les nazis de l'époque. Mais Dieu a livré son Fils sur cette croix, passant par ce supplice et par la mort totale, absolue. Et il est bien mort. n'est pas une pseudo-mort. Ce n'était pas vite fait, bien fait. Mais il est bien mort, encore une fois, pour toi et pour moi. C'est Jean-Baptiste qui a reçu cette révélation qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le crucifié. » Il le voit déjà comme la victime expiatoire. Il le voit déjà. Est-ce que lorsqu'on prêche, lorsqu'on témoigne, on parle d'un Jésus crucifié? Que disons-nous de Jésus lui-même? Il est le crucifié. Et du reste, il est encore le crucifié. Et lorsqu'on le verra face à face, on verra encore dans son côté et dans ses poignets et dans ses chevilles la crucifixion, les signes de sa crucifixion. La Bible nous dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On verra Jésus-Christ, fils de Dieu glorieux, et on verra Jésus-Christ, homme, là-haut, dans les cieux, avec un corps, bien sûr, glorifié, mais on le verra face à face. Alors, parlons de lui comme le crucifié. Allons au baptême, maintenant. Jusque-là, Jésus ressuscite. Alléluia. Ce n'est pas une petite résurrection. Alors ça commence doucement. Quelques femmes le voient, qui sont prises pour des folles. Marie de Magdala, qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas ressuscité. C'est quoi une résurrection? Tu as déjà vu une résurrection? Tu dis vague, tu dis n'importe quoi, Marie. Mais elle voit, elle discute avec le ressuscité. Elle croit. Et puis les autres femmes aussi le rencontrent. Et enfin les hommes, incrédules, mais on est tous peut-être, enfin les hommes le voient. Jésus vient. Le ressuscité glorieux. Incroyable, c'est vrai. C'est le qualificatif. Jésus est là. Et pas seulement les 12, mais il y a les autres. Et c'est Paul qui nous dit qu'il a été vu par plus de 500 frères à la fois, plus les sœurs. Donc après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église est là, se rassemble, Ecclésia. Et puis il y a des grandes réunions et Jésus prêche. Extraordinaire. Plus de 500 frères en même temps. Ils ont estimé les grands rassemblements avec Jésus après la résurrection. 500 frères à la fois. Waouh! Et prédication de la bonne nouvelle, impartition de la puissance du Saint-Esprit annoncée par Jésus. Et il leur dit, prêchez ce qui se passe, annoncez la bonne nouvelle, et puis baptisez les gens qui croient, baptisez-les. Et aujourd'hui, on en est là, à l'oratoire. On est le combien? Le 3? Le 3 mars, on accomplit ce que Jésus a demandé. Prêchez la bonne nouvelle, et le baptême, ça c'est l'ordre juste. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Habacuc 2.4, le juste vivra par la foi. Celui qui croira, première chose, dans le bon ordre, celui qui croira. Est-ce que tu crois? Crois-tu? Qui sont les croyants ce matin? Qui sont les croyants ce matin? Celui qui croira. Les autres, croyez à la bonne nouvelle. Ayez foi dans ce Sauveur et ce Seigneur qui est mort et ressuscité pour chacun de nous. Le principe de la foi est posé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, plongé dans l'eau, signe visible d'une foi intérieure. Signe visible d'une foi intérieure. J'ai remarqué, quand les personnes se convertissent, une vraie conversion, ça traîne pas longtemps avant qu'il y ait une demande de baptême. Il y a le Saint-Esprit qui presse comme ça. Et toi? Et toi? Et toi? Et ça m'a plusieurs fois surpris de voir des personnes qui n'avaient pas la connaissance de la doctrine. Ah, il faut que je me fasse baptiser. Et peut-être c'était ton cas, tu as senti à un moment donné que s'il fallait se faire baptiser, c'était le bon moment. Il fallait, l'Esprit de Dieu poussait. Il y a un jeune homme dans la paroisse d'Aunay qui m'a qui m'a cassé les pieds pendant un bon moment, et ses parents sont là aujourd'hui. Il faut que je me fasse baptiser. Et j'ai dit non, t'es trop jeune. On attend encore, t'es trop jeune, il faut que je me fasse baptiser. Et ce n'était pas les parents qui pressaient, c'était l'Esprit de Dieu qui pressait. Et après, au d'un moment, alors oui, c'est le bon moment, il faut, on va passer par, tu vas passer par les eaux du baptême du lac. Oui, et c'était le bon moment pour lui. Première chose, la foi d'abord. Pas de baptême parce que les copains le font. Pas de baptême parce que c'est fun et c'est la fête dans l'église. Mais parce que tu crois. Celui qui croira et qui sera baptisé. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le seul texte qui montre le baptême qui est lié à notre Dieu qui est trinitaire. Baptisez-les. Le baptême dans ce texte de Matthieu 28, c'est pour qui ? C'est pour toutes les nations qui deviennent disciples. On pourrait faire un baptême de nations. Je sais pas. Quand toute la Suisse sera sauvée, on va baptiser la Suisse d'un coup. Je ne sais pas comment on va faire. Mais on va dire, Seigneur, baptise la Suisse d'un coup. C'est bon. Puisque, littéralement, faites le baptême, c'est pour les disciples. Faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple d'après Jésus? On va se jauger par rapport à ça. On évalue. Tout d'abord, un disciple, pour Jésus, c'est celui qui est mort à lui-même. Est-ce que vous êtes mort à vous-même, Aurélie, Salomé? Morte à vous-même. Morte à vous-même. Il y a une Aurélie, une Salomé, qui doit mourir. La vieille Aurélie, la vieille Salomé, c'est le vieil homme, comme dit Paul, ou alors la nature de péché en elle. C'est mort à la croix. Un disciple, c'est quelqu'un qui meurt à lui-même. Et je le rappelle ce matin pour chacun. Sommes-nous morts à nous-mêmes? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mon business, non pas ma volonté, mais d'abord la tienne. D'abord la tienne, je la soumets. C'est vite dit, mais c'est pas facile. Parce que c'est tous les jours. C'est pas seulement le 3 mars pour Aurélie et Salomé, mais c'est tous les jours de la vie. Parce qu'un disciple, c'est tous les jours de la semaine. 24 sur 24. 365 jours par an. Jusqu'au dernier souffle. Ça, c'est un disciple. Et si on vit pour nous-mêmes, juste, on revient au Seigneur. Seigneur, aide-moi à vivre pour toi. Aide-moi à faire ta volonté. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus et son enseignement. Dans le même texte, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que n'a pas prescrit Jésus, on le met dehors. Hein ? On est d'accord avec ça. On ne suit pas une tradition humaine. On ne suit pas une philosophie. On ne suit pas tel et tel mouvement. Mais on suit l'enseignement de Jésus, tout ce qu'il a prescrit. Et rien d'autre que ce qu'il n'a prescrit. Rien d'autre. Analysons notre foi, notre démarche chrétienne, notre vie chrétienne à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'on fait, c'est juste? Est-ce que c'est dans la pensée biblique? Est-ce que ma vie avec, chrétienne avec Christ, est-ce que si je vais faire, avec mes collègues de boulot, une grille au loto, est-ce que c'est dans la pensée de Christ ou pas? Peut-être. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer au loto, mais je ne dis pas qu'il faut jouer. On a besoin du Saint-Esprit. Exemple pratique. Est-ce que si je vais boire quelques verres avec mes collègues, c'est dans la pensée de Christ pour moi ce soir? Seigneur, où est ma place? Je veux te suivre. Je veux te suivre. Je ne veux pas suivre le mouvement, je veux suivre la pensée de l'Esprit aujourd'hui. Que dit-il? Un disciple meurt à lui-même, ou une disciple. Hein. Un disciple suit Jésus et un disciple teste. Il aime inconditionnellement l'église locale. Oh, je prêche pour ma paroisse, oui. Mais pour la tienne aussi. Il aime inconditionnellement l'église locale qui est le corps de Christ. Tu regardes ton voisin, ta voisine, c'est un bout du corps de Christ. Non, un membre, pas un bout, un membre. C'est vrai. Tu fais partie du corps de Christ, universel, mais aussi local. Parce que l'église locale, ça reflète le corps de Christ. Et Jésus, c'est trop génial, il est le chef de l'église, et il fait en sorte que chaque église locale ait les membres et que ça fasse un corps, et que rien n'y manque. Alors ceux qui ne sont pas au culte ce matin, c'est enregistré ou pas ? Et qui entendent l'enregistrement, il y a un bout du corps qui manque à l'oratoire, dans ce lieu. Ta place est ici. Tes frères et sœurs ont besoin de toi et tu as besoin de tes frères et sœurs. Et tu représentes le corps de Christ. Même si il y a des fois des conflits, même si on ne s'entend pas des fois, même si on se dispute, c'est normal, c'est humain. Mais on est quand même le corps de Christ. Donc un disciple, est-ce que tu aimes inconditionnellement le corps de Christ ? J'entends les confessions pastorales parfois qui me répètent, qui sont là en tant que pasteur. Oui, mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, tu sais, j'ai vécu ça. Je ne sais pas. Jamais valable comme raison aux yeux du Seigneur, jamais valable. Alors baptême aussi, Matthieu 28, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je pense, Stéphane, il va dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de l'amour du Père, au nom de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et au nom du Saint-Esprit. Nous croyons au Père, nous croyons au Fils, nous croyons au Saint-Esprit, dans toute sa plénitude, avec ses dons. Romains 6, 3 à 13, on ne va pas le lire parce qu'il est conséquent, ce texte. Alors ce texte, il proclame, si Marc 16 proclame la foi en premier, si Matthieu 28 dit le baptême est pour les disciples, Romains 6 proclame que le baptême, c'est une déclaration de libération. Fini l'esclavage du péché, c'est terminé. Romains 6, 14. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi, sur moi, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Plus sous la loi, mais sous la grâce. Autrement dit, la crucifixion de Jésus crucifie en moi la nature de péché, le mal. Ça, c'est crucifié, n'est-ce pas ? Crucifié. Et puis, le péché qui était notre maître avant n'est plus notre maître. Il est mis à mort. Le péché était un maître. Évidemment, c'est un mauvais maître. C'est un méchant maître qui nous pousse. Mais c'est en nous, c'est en moi. Mais c'est crucifié. Et le baptême, on est en train de dire, eh bien maintenant, le péché, c'est terminé. J'ai vécu une vie dans le péché, c'était mon maître, et maintenant c'est fini. C'est fini. Et cette promesse du verset 14, elle est extraordinaire. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi parce que tu n'es pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est fini le pouvoir du péché. Les menottes sont enlevées par le pouvoir, entre guillemets, du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Alléluia, on va proclamer cela tout à l'heure. Et puis quatrième texte, le baptême, c'est l'engagement. 1 Pierre 3, verset 21. C'est une figure, Pierre écrit ça. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, n'est-ce pas ? Baptême de Jean-Baptiste ou les ablutions judaïques, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et je nous le rappelle ce matin, nous les baptisés, et je le dis aux futurs baptisés, c'est l'engagement d'une bonne conscience, jusqu'à la fin. Point. Alors, avons-nous ce matin mauvaise conscience ? Que nous dit notre conscience ? C'est le Saint-Esprit qui parle par notre conscience. Le baptême nous assure cette purification par le Saint-Esprit et grâce à la croix. Alors, nous nous sommes engagés, nos bien-aimés ce matin vont s'engager et on se réjouit avec elles. On se réjouit parce qu'elles vont s'engager pour la vie et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sinon, il ne vaut mieux pas s'engager. On attend un petit peu. Mais il faut être prêt. Et le mot engagement ici, c'est très fort. C'est cet engagement, c'est la signature d'un contrat où on respecte les clauses jusqu'au bout. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, comme à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu ? Alors, Aurélie et Salomé vont répondre tout à l'heure. Le Seigneur nous dit ce matin, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, dans ce passage de l'évangile de Jean, il se dit, bah, Seigneur, oui, je t'aime. Donc le baptême, ce n'est pas oui, je t'aime, Seigneur. Hein ? C'est vraiment à vie, je te donne ma vie. Et ce matin, on peut renouveler notre engagement. Dire oui, Seigneur, je t'aime. Et Pierre, à la troisième question, troisième fois qu'il lui est posée, il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Le Seigneur sait où on en est, mais qu'on puisse se réengager ce matin, se reconsacrer à lui, à sa personne. Et tout devient facile en Christ. Les engagements chrétiens et les exercices chrétiens deviennent aisés. Alors oui, fini l'esclavage pour Romains 6, je le répète. Et puis 1 Pierre nous dit que c'est un engagement. Et puis Matthieu 28, cet engagement est pour les disciples. Et la foi en premier avec Marc chapitre 16. Merci Seigneur Jésus parce que tu as instauré ce baptême et tu nous as, dans les textes de ta parole, rappelé que c'est quelque chose de sérieux, de profond et en même temps une grande joie. Seigneur, on te remène aux bien-aimés qui vont passer par le baptême, par cette eau tout à l'heure. Donne-leur une visitation particulière, une compréhension et une révélation de qui tu es. Et pour nous qui sommes là ce matin, Seigneur, qui sommes déjà baptisés, eh bien donne-leur une révélation, de renouvelle cette révélation de ce baptême, de l'importance de ce qu'est le baptême. Je lis tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui veut cacher l'importance de ce baptême, ce matin, qui veut voiler Christ. Nous balayons cela ce matin au nom puissant de Jésus. Et nous prions, Seigneur, nous supplions pour que tu viennes toucher nos cœurs. Nous supplions pour que tu nous accordes ta révélation en profondeur. Merci pour cet engagement ce matin. Bénis nos sœurs, fais-leur du bien dans cet engagement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.